Vous écoutez France Culture. Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray à l'Université populaire de Caen. Dixième année, les consciences réfractaires. Aujourd'hui, Politzer, une vie philosophique.
Bien, bonsoir, merci d'être là pour ce premier cours consacré à l'un des quatre philosophes de l'année, en l'occurrence Georges Politzer. Politzer est un personnage dont on parle assez peu, il n'y a pas de biographie consacrée à Georges Politzer, et j'ai la chance de connaître son fils, Michel Politzer, et Michel a fait une biographie de son père, très touchante, très émouvante, à la première personne, c'est la quête d'un père, mais c'est aussi la quête d'un philosophe, donc ce sera un portrait de Georges Politzer, ce sera aussi un portrait en creux du Parti communiste français. On a dit l'autre fois que le siècle avait été d'une certaine manière bergsonien, et le siècle qui a été bergsonien, c'est le siècle de la philosophie institutionnelle, officielle, la philosophie des professeurs, la philosophie de l'université, la philosophie du Collège de France, la philosophie qu'on exporte, qu'on montre à l'étranger comme une espèce de belle vitrine. Mais il y a une autre philosophie française, et à l'évidence, vous êtes au courant du concept maintenant, il y a une contre-histoire de la philosophie qui nous permet de parler de la philosophie autrement que vue de la Sorbonne, vue de l'université, vue du Collège de France, comme Bergson le faisait, et Politzer nous permet ça. Alors, Politzer, c'est un personnage qui a été très critique sur un certain nombre de domaines et qui n'a probablement pas eu assez de temps pour être positif. Il y a un temps pour la critique, il y a une époque dans la vie aussi, la jeunesse, le sang chaud, bouillonnant, le personnage est agressif, énervé, il a envie de changer les choses, de bouleverser les choses, il y a des gens qui l'énervent, il le dit clairement, franchement, et il est très critique, très violent, très brutal même parfois, contre Bergson, contre la psychanalyse. Il l'est aussi, j'allais dire plus justement, mais on peut l'être, il l'a été justement sur l'historiographie aussi, critique, et vous verrez pourquoi et comment, mais il a été critique très vite et très tôt avec Alfred Rosenberg, le mythe du XXe siècle, le philosophe du nazisme, pour aller vite un petit peu, le penseur du national-socialisme. C'est un personnage dont on a dit qu'il était un résistant communiste, c'est un petit peu ce qu'on dit aujourd'hui pour présenter le personnage quand on ne sait pas grand-chose et qu'on veut absolument l'enrôler quelque part. Il sera donc fusillé à 39 ans en mai 42, mais il aura eu le temps de faire plein de choses. Et je tâcherai de consacrer les trois autres séances à vous le montrer. Il naît le 3 mai 1903 en Hongrie, le pays devient Roumanie en 1918, d'un père médecin dans les usines. Le père est brutal, violent, zélé du côté des patrons, nous dit-il, et on verra un petit peu plus tard que ça le détermine à être ce qu'il deviendra politiquement. Il entend son père piquer des colères contre les ouvriers, il voit l'injustice de son père à l'endroit des ouvriers, et il est du côté des ouvriers. C'est un gamin brillant, boursier, élève intelligent. À 16 ans, il est président du conseil du lycée et révolutionnaire, très vite, très tôt. En janvier 1919, il adhère au Parti communiste hongrois, milite avec les cadres, fait la propagande dans les lycées au point qu'il se trouve renvoyé de l'école parce qu'il avait écrit un texte révolutionnaire. Il prend part concrètement à la Révolution, donc très jeune, il se trouve sur les barricades et il est commissaire politique de son unité. La commune est écrasée fin juillet, il y a des combats dans les rues, c'est extrêmement violent, la répression est terrible, et il y a des pogroms. Politzer est juif. Il fait la révolution, il risque sa peau, et après la révolution, il rentre en première pour l'année 1919-1920. Et il apprend, à cette occasion-là, le français. Très vite, il devient polyglotte. À 20 ans, il parle le hongrois, l'anglais, le français, l'allemand. Et en mai 1921, il passe son bac. Il passe son bac et a le désir, donc répression à l'endroit des communistes, à l'endroit des juifs. Il est juif, il est communiste, donc il quitte son pays pour la France. Et en partant pour la France, il passe par Vienne. Et à Vienne, il rencontre, on n'est pas très sûr, mais il rencontre ou Freud ou sûrement les Freudiens. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage qui, par hasard, dans une librairie, lit un livre, c'est vraiment quelqu'un qui lisait de très près les productions de la psychanalyse, qui étaient donc des productions contemporaines de son propre travail. Il arrive en France en 1921, directement au Quartier Latin, et là, découvre les philosophes dont il fera l'éloge par la suite, Descartes, Voltaire, Diderot. Et il suit les cours à l'époque de toutes les sommités, dont Bergson, dont Brunswick, Lalande, et puis d'autres sommités du moment. Il assiste aussi à des cours de psychopathologie, et à cette époque-là, les séances sont l'occasion de présentations de malades. On demande que le malade puisse faire la démonstration des thèses qu'on a l'intention de soutenir, et Politzer n'est pas dupe du caractère théâtral de ces présentations. Pendant ce temps-là, il approfondit sa connaissance de Freud, et, jeune homme, brillant, il est d'abord ce qu'il appelle une psychologie concrète. Il passe un diplôme d'études supérieures de philo, avec le titre « Le rôle de l'imagination dans le schématisme kantien », avec une mention bien. Pour gagner sa vie, quand il a fini ses cours, il traduit des journaux hongrois à destination d'une agence de presse, et il prend, à cette époque, la tête des étudiants juifs de Hongrie. Il épouse une jeune fille qui s'appelle Camille, et au dire de Michel lui-même, à cette époque, il épouse cette jeune fille par pur opportunisme. Son père est propriétaire et il a un bel immeuble dans Paris. C'est utile pour se trouver rapidement, correctement logé. Et donc, il épouse Camille à cette époque-là. Le 31 décembre 1924, il devient français. Et le 16 mai, il est père d'un petit garçon. Il est agrégé après 4 années de philo, dès son arrivée à Paris. Cette année-là, Jankélévitch est reçu premier et Politzer cinquième. Dès l'université, il crée un groupe qui s'appelle Les Philosophes, avec plusieurs amis, Georges Friedman, Henri Lefebvre, Pierre Morange, donc lui, Norbert Guterman également, et Nizan, qui fréquente aussi le groupe, mais d'un peu plus loin. Nizan est le premier à adhérer au parti. Ils sont vraiment très copains, très amis à cette époque-là, et on verra que tout ça va se déliter. Il crée une revue qui s'appelle Philosophie, au pluriel, et ils font l'éloge d'un certain nombre d'individus dont on parle assez peu à l'époque, dont on parlera par la suite, je songe à Rilke ou à Joyce. Et à cette époque-là, en disciples relativement fidèles, eh bien, ils écrivent quelques hommages à Brunswick et à Bergson. C'est-à-dire l'heure de la guerre n'est pas encore arrivée, enfin de la guerre entre ces personnages-là et Bergson et Brunswick. Elle arrivera et vous verrez avec quel texte. Ce sont des individus qui, brillants, intelligents, cultivés, philosophes, apprentis philosophes, ne veulent pas vivre de la philosophie, mais veulent vivre la philosophie. Vivre de la philosophie, c'est devenir professeur, écrire des livres, faire des conférences, etc. Mais on peut aussi vivre la philosophie, c'est-à-dire tâcher d'être à la hauteur des idées qu'on défend. Et ça, c'est une ligne de fracture radicale. Et Nizan et Politzer pensaient la philosophie non pas comme un exercice de style, Camus c'est la même chose, comme un truc en l'air, facile, une espèce de sophisterie, de jonglerie, de rhétorique qui montrerait qu'on est doué et habile. La philosophie, pour eux, ça devait changer la vie et changer sa vie. Vivre la philosophie, ça voulait dire entrer dans une espèce d'existence comme un moine, devenir une espèce de moine-soldat des idées qu'on défend. Friedman est fils de banquier, il fait un héritage et à ce moment-là, ils décident tous d'acheter une propriété. Et il y aurait un joli petit livre à faire sur le désir des communautés philosophiques après l'Antiquité. Vous savez que dans l'Antiquité, il n'y avait que des communautés philosophiques. Le lycée pour Aristote, l'académie pour Platon, le portique pour les stoïciens, le jardin pour les épicuriens, le cynosarge pour les cyniques. Et par la suite, il y a des philosophes, et on a eu l'occasion d'en parler avec Nietzsche, qui ont souhaité des petites communautés de réflexion, comme ça, des lieux dans lesquels les philosophes auraient pu penser, vivre, travailler, et éventuellement vivre de manière autonome, c'est-à-dire avoir un petit bout de jardin, avoir un lopin de terre, cultiver son jardin, au sens réel du terme, pas au sens voltairien, et puis être en autosubsistance, vivre du travail de ses mains, c'est-à-dire connaître un peu la condition du prolétaire. Donc ils cherchent à acheter une propriété pour y vivre ensemble, et pendant l'année 27, Politzer cherche avec Lefebvre, tous les deux, concrètement, c'est-à-dire qu'ils se déplacent, ils vont voir des endroits, ils tombent un jour sur une annonce bretonne qui leur fait savoir qu'il y a une petite île à vendre dans le Morbihan, et au port de Séné, ils embarquent tous les deux. Et ceci dit, avant d'embarquer, ils se foutent sur la figure, Politzer et Lefebvre. Et on verra que ce n'est pas la première fois. Politzer est agressif et il en vient souvent aux mains. Et donc, ils se battent tous les deux, alors qu'ils sont censés acheter une île pour y vivre philosophiquement ensemble. Mais bon, acheter l'île encore, ils n'ont pas commencé, donc on voit qu'ils partent de loin. Le notaire les embarque, ils traversent, ils n'achètent pas l'île, évidemment, ils la visitent, mais ils ne l'achètent pas. Et ils décident autre chose. Fin 28, ils créent une maison d'édition, une librairie marxiste. Alors bon, il faut savoir qu'en 1928, le marxisme en France, ça n'existe pas, ça n'existe pratiquement pas. Il y a peu de textes traduits, il faut lire l'allemand, il faut éventuellement acheter les éditions allemandes et connaître, donc... Le marxisme n'a pas encore touché les intellectuels à ce point, mais ça commence. Et donc, ils sont dans l'avant-garde. Ces amis-là, ces cinq amis, sont dans l'avant-garde et proposent de mettre la petite somme au service de la cause marxiste. Alors, ils créent donc cette librairie marxiste, ils créent une maison d'édition qui s'appelle Les Revues. Les Revues s'appellent La Revue Marxiste, et l'autre, La Revue de Psychologie Concrète. Il y aura deux numéros à cette revue de psychologie concrète, et les deux numéros sont rédigés entièrement par Politzer, qui est un gros travailleur et qui développe ce qu'on retrouvera par la suite dans la critique des fondements de la psychologie. Il arrive alors un personnage assez singulier qui leur dit « Mais c'est bien, la cause marxiste, tout ça, c'est extraordinaire, mais il faut de l'argent pour la cause. Et ce serait bien que ce petit pécule, on puisse le faire fructifier. » Et il propose de le jouer... j'allais dire en bourse, mais non, c'est l'époque qui me fait dire des bêtises, mais de le jouer au casino. C'est un peu la même chose, vous me direz. Mais... Et donc, je ne sais pas comment il se débrouille, mais en jouant une petite somme au casino, il multiplie les gains, et les autres sont complètement séduits, donnent la totalité de la somme, et le personnage se tire avec la somme. Et évidemment, ils ne reverront jamais le personnage. Donc, sabordage de la revue. En même temps, il faut imaginer que ces étudiants-là, évidemment, sont dans l'espèce d'admiration, détestation, vénération, tout ça étant souvent lié d'Henri Bergson pour ce qu'il est et ce qu'il représente. Et pour vous montrer le caractère, le tempérament un peu du rouquin, comme il était souvent appelé, il y a quelques anecdotes qui montrent qu'il se comporte un peu comme Diogène. Et à la bibliothèque Cousin, par exemple, Bergson est en train de faire une conférence et il mange bruyamment un sandwich en présence de Bergson, en activant bien les maxillaires pour faire voir qu'il mange devant Bergson. Et il faut savoir que le happening en question vise à montrer qu'il y a un homme concret, et que l'homme concret, c'est celui qui mange, et que l'homme abstrait de Bergson n'a pas grand-chose à voir avec le philosophe concret de Politzer. C'est une anecdote, a priori. Manger un sandwich, on peut dire, c'est une provocation, mais c'est aussi une façon de dire vous avez une définition de l'homme, qui est celle d'un Bergson, très idéaliste, très spiritualiste. Et puis de l'autre côté, vous avez un personnage qui vous dit c'est bien beau la philosophie, mais vous avez des ouvriers qui crèvent la faim, vous avez des travailleurs, vous avez des gens modestes, vous avez des gens qui n'ont pas accès à la culture, vous avez un homme réel, un homme concret. Et la philosophie, dit Politzer, et Nizan le dira aussi, mais la philosophie, ça doit s'occuper de l'homme concret. Les philosophes doivent se mettre au service du concret, de la réalité, de celui qui mange son sandwich d'une certaine manière, et de ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un sandwich. Il emprunte la tortue de sa copine et lui met une bougie sur le dos et envoie la bougie dans la direction de Bergson, et il appelle sa tortue l'évolution créatrice. Et c'est le titre d'un livre de Bergson, et il dit, voilà, l'évolution créatrice éclairant le vieux monde. Et normalement, l'anecdote est ainsi racontée, la tortue, avec sa bougie allumée sur le dos, passe entre les jambes de Bergson, qui était somnolent. Deuxième performance, ou deuxième happening, et troisième happening, il écrit un texte, La fin d'une parade philosophique, de point le bergsonisme, texte très violent, philosophiquement, mais très juste dans sa considération des choses. Et il lit tout haut des fragments de ce texte-là en présence de Bergson, qui reste totalement impassible. Donc il est, on le dit à l'époque, et son fils le dit aussi, agressif, ironique, cynique, coléreux, fougueux. Il se bat avec ses copains, vous avez vu avec Henri Lefebvre. Donc c'est un personnage sanguin, engagé, qui sait à quoi il croit et qui s'engage du côté de la philosophie concrète, du côté de la pensée qui doit se soucier des hommes tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils devraient être, ou des hommes réels et concrets, ceux qui naissent, vivent, meurent, etc., et s'inscrivent dans un drame. C'est le grand moment de la pensée de Politzer, le drame. Nous sommes dans un drame. Des notions comme celle-ci ne sont pas sans relation avec la situation de Sartre et la psychologie concrète de Politzer, qui n'aboutira pas pour cause de Mont-Valérien. Le Fusillade de Mont-Valérien, elle deviendra un peu la psychanalyse existentielle chez Jean-Paul Sartre, qui lui n'aura pas pris les risques le conduisant éventuellement un jour au Mont-Valérien. En mai 1925, il publie « Introduction », un texte qui s'appelle comme ça « Introduction ». Il écrit, hein, qu'il est publié l'année suivante, en mai 1926, et c'est déjà une historiographie alternative qu'il nous propose. Et c'est très intéressant, parce que cette historiographie alternative, c'est celle que je vous propose, d'une certaine manière, l'une des généalogies de l'Université populaire, et notamment du séminaire de contre-histoire, il se trouve là. L'historiographie est une discipline qu'on n'aborde jamais en philosophie. Moi, j'ai fait 8 ans de philo à la fac et à aucun moment on ne m'a dit voilà comment s'écrit l'histoire de la philosophie. On m'a dit voilà comment est écrite l'histoire de la philosophie, mais jamais on m'a dit voilà comment elle s'écrit. Et des gens comme Politzer et Nizan disent ça ne marche pas du tout comme ça. L'histoire, elle est écrite par des gens qui ont intérêt à l'écrire comme ça. Et ces gens-là ont des intérêts qui sont les intérêts de la classe bourgeoise, de la bourgeoisie. La bourgeoisie a intérêt à mettre en avant certains philosophes, et à laisser de côté d'autres philosophes. Elle a intérêt à mettre en avant les spiritualistes, les idéalistes, les chrétiens, donc les platoniciens, donc saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, bien sûr, Bergson aussi, bien sûr, évidemment. Cette philosophie-là, elle n'est pas gênante, elle disserte sur des abstractions, elle disserte sur des concepts, elle ne touche pas au monde. Et les bourgeois disent, eh bien, continuez à faire de la philosophie tant que cette philosophie-là est dominante, eh bien, elle ne gêne personne et on peut bien vous donner des honneurs, des richesses, des postes et des avancements dans l'université, des nominations au Collège de France, des nominations dans des endroits comme l'Académie des sciences morales et politiques. Et effectivement, Bergson ramasse tout ça, tous les honneurs, et Politzer dit, mais on ne ramasse pas tous ces honneurs-là par hasard. Si on les ramasse, c'est qu'on a rendu service. Et à qui a-t-on rendu service ? Aux bourgeois, aux propriétaires, aux possédants, et puis à ceux qui font fonctionner ce monde-là comme il fonctionne, les banquiers, les commerçants, les notaires, etc., etc. Donc, il commence à nous faire une autre histoire de la philosophie dans ce petit texte qui s'appelle « Judicieusement introduction ». Et il nous fait l'éloge, citation, de l'homme concret vivant sa vie unique sur le plan humain. Éloge de l'homme concret vivant sa vie unique sur le plan humain. Il s'agit donc, pour Politzer, de couper en deux l'histoire de la philosophie, franchement, nettement, en disant, voilà, il y a une philosophie qui permet au monde comme il est de continuer à être ce qu'il est, et puis une autre philosophie, la philosophie de ceux qui ne s'en contentent pas, des gens qui, eux, sont rebelles à ce monde-là, n'en veulent pas, et qui mettent la philosophie au service du peuple, des ouvriers, des opprimés, de ce qu'on appelle au XIXe siècle le prolétariat, et des philosophes qui sont soucieux de vie concrète. Et ces philosophes-là, eh bien, ils sont ceux du lignage de Politzer, et ils sont ceux qui, évidemment, ne sont pas la plupart du temps enseignés à l'université. On n'enseignera jamais Politzer, on n'enseignera jamais Nizan. Éventuellement, on peut ajouter qu'on n'enseignera non plus jamais Albert Camus, mais en revanche, on enseignera les autres, tous ceux qui, effectivement, rendent des services à la société et lui permettent d'être ce qu'elle est et comme elle est. À cette époque-là, découvrant Marx, Politzer en fait la critique en considérant qu'il y a trop de scientisme chez Marx. Et de fait, il y a des Marx. Le Marx des manuscrits de 1844 n'est pas le Marx du manifeste du Parti communiste de 1848 et ça n'est pas le dernier Marx du Capital. Ce sont des Marx différents. Et il faudrait lire tout Marx pour pouvoir savoir ce que peut être le marxisme et peut-être en penser un contre un autre. Pour ceux qui étaient là l'an dernier, Eric Fromm faisait l'éloge des manuscrits de 1844 et d'autres ensuite, après, hein, Althusser par exemple, en considérant que peut-être le marxisme humaniste devrait se nourrir de ces textes de Marx qui critiquent l'aliénation, qui fait l'éloge d'un homme réconcilié avec lui-même, d'un individu qui ne serait plus soit un intellectuel, soit un manuel, mais un intellectuel et un manuel, un penseur et un homme d'action, etc. Et on peut donc être marxiste, mais critiquer le scientisme de Marx et considérer que Marx n'a pas raison quand il considère que le matérialisme historique est une modalité de la science et qu'il y aurait d'un côté les socialismes utopiques et puis de l'autre côté le socialisme scientifique, le sien. Donc effectivement, on peut faire cette critique-là et faire une lecture véritable. C'est celle que fait Politzer à cette époque-là. Il critique le Marx scientiste et il a bien raison puisque c'est avec le Marx scientiste qu'on va fabriquer l'Union soviétique et les pays de l'Est. Et en même temps, il fait l'éloge de la révolution communiste et si vous voulez concrètement changer la vie à l'époque, ça passe par le parti, mais son désir, c'est plutôt de changer la vie et d'abolir ce vieux monde idéaliste. En même temps, il traduit Schelling, est un philosophe idéaliste allemand, et précisément les recherches philosophiques sur l'essence de la liberté humaine, et c'est dans ce texte-là qu'il trouve la notion de drame. Mais le drame de Politzer n'est pas le drame schellingien, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est l'espèce de tissu existentiel de tout un chacun. Nous sommes dans le drame, et notre existence est drame. Notre rapport à autrui est drame, notre rapport à nous-mêmes est drame, etc. etc. On verra un peu ce qu'il veut dire par là. Politzer devient professeur de philosophie, puisqu'il est agrégé, il a donc un poste, et son premier poste à 25 ans est à Cherbourg, où il vit avec sa femme et son fils. En février, il perd une petite fille, et c'est à Cherbourg qu'il écrit le seul livre qu'il publiera de son vivant, qui s'appelle « Critique des fondements de la psychologie ». Et ce texte était le début d'une œuvre qui se serait appelée « Les matériaux ». Le livre paraît en 1928, et c'est la première fois qu'un philosophe consacre un texte à la psychanalyse. Politzer regarde comment fonctionne la psychanalyse, il lui trouve de l'intérêt, il trouve qu'effectivement le sujet freudien, enfin le sujet dont Freud s'occupe, c'est un sujet concret. C'est ce que nous racontent les cinq psychanalyses, pour ceux qui ont pu lire ces choses-là, sur le petit Hans, sur le cas Dora, à chaque fois ce sont des personnes réelles, véritables, concrètes, avec des problèmes physiologiques, anatomiques, et Politzer dit ça c'est plutôt bien. Il n'est pas dans une logique abstraite, Freud. Il pense concrètement des individus concrets. Et c'est un progrès pour la psychologie, parce que la psychologie classique, elle, s'occupe d'abstractions, d'idées, de concepts. Et très vite, on part du sujet pour parvenir à des notions, et on disserte plutôt sur des notions, en oubliant d'ailleurs le sujet. Donc c'est intéressant, dit-il, dans un premier temps, de voir un Freud qui fait tomber la psychologie classique idéaliste et qui instaure une psychologie concrète. Mais très vite et très tôt, en même temps, dans le même ouvrage, il nous dit Freud, il reste encore prisonnier de la psychologie classique, c'est-à-dire de la psychologie idéaliste, c'est-à-dire de la psychologie bourgeoise. Chez Politzer, et vous verrez chez Nizan aussi, dès que vous entendez idéaliste, spiritualiste, vous pouvez ajouter capitaliste et bourgeois, ça va ensemble. Et là-dessus, il a raison. Et il nous dit, le fameux inconscient freudien, c'est une concession faite à la psychologie classique. Il n'entre pas dans le détail. Rappelons qu'à cette époque-là, Freud est toujours vivant, que donc il a encore une dizaine d'années à vivre, et que dans cette dizaine d'années à vivre, il va développer un certain nombre de choses. Donc il pense une philosophie qui est en cours d'élaboration, mais ses intuitions sont justes. Elles sont tellement justes, d'ailleurs, que Freud ne cessera de lui donner raison à son corps défendant. Mais la révolution freudienne n'a donc pas eu lieu. 1928, entendons-nous bien, hein, 1928, il nous dit « la révolution freudienne n'a pas eu lieu parce qu'elle n'a pas approfondi la connaissance du particulier, c'est-à-dire qu'elle a fait fi des cas concrets au profit de constructions conceptuelles. » Les fameuses topiques, pour ceux qui s'en souviennent, les premières ou les deuxièmes topiques, c'est-à-dire qu'il y a un appareil psychique, nous dit Freud, et cet appareil psychique, eh bien, il est susceptible d'être pensé à partir d'un dispositif intellectuel, le premier dispositif, première topique, hein, l'inconscient, le préconscient, le conscient, et la deuxième topique, le ça, le moi, le surmoi. On n'entre pas dans le détail, on a passé beaucoup de temps sur ce sujet-là. On nous dit l'inconscient est une topique cérébrale et conceptuelle, et cette topique cérébrale et conceptuelle, elle est bien pour l'esprit, c'est satisfaisant pour l'esprit, mais ça ne nous permet pas de penser concrètement l'homme concret. Je vous disais que le personnage était atrabilaire, et de fait, quand il est à Cherbourg, il a un collègue qui s'appelle Bazir, qui est originaire de Vire, et c'est un prof de lettres, et il se fait que le prof de lettres est de droite, et ils conversent tous les deux sur le port de Cherbourg, et ils en viennent aux mains. Et Politzer balance Bazir dans l'eau du port de Cherbourg. Donc évidemment, quand le prof de philo de Cherbourg envoie un de ses collègues dans l'eau du port, ça s'évite, et la bourgeoisie locale demande que Politzer soit envoyé ailleurs, et Politzer est muté à Vendôme. Et il fait son année scolaire à Vendôme en 29-30. Et puis il est nommé à Évreux, 1930-1931, et le hasard faisant bien les choses, il retrouve Bazir, il avait envoyé dans l'eau de Cherbourg, qui pour le coup devient son meilleur ami. Ça aussi, c'était Politzer. Et à Évreux, on est en 1930. Il faut imaginer ce que ça peut signifier à cette époque-là qu'un prof qui se bat et qui se comporte comme il se comporte. C'est-à-dire qu'il loge dans une petite maison. Il est toujours avec Camille, donc il fait le trajet trois fois par semaine. Et il arrive au lycée en vélo, avec une casquette et en bleu de travail. Donc vous imaginez un petit peu ce que ça peut signifier à l'époque. C'est pour le coup révolutionnaire. vraiment où on attend du professeur qu'il soit habillé correctement, costumé, cravaté pour faire cours. Donc la casquette, le vélo et le bleu de travail, évidemment, ça choque un peu. Michel Politzer raconte qu'à 5h30 le matin, quand il prend son train, le wagon est presque réservé, le compartiment, il y tient une espèce de séminaire philosophique. Donc c'est bouillonnant, c'est chaud et ça paraît passionnant. Le 26 novembre 1930, il entre au Parti communiste, il a 27 ans. Il avait déjà fait une demande en 1929 et on lui avait refusé l'adhésion à cette époque-là. Et je découvre, en lisant un petit peu sur ce sujet-là, l'espèce de discipline de fer du parti à l'époque, qui faisait des enquêtes personnelles pour savoir qui vous étiez, si vous aviez de bonnes intentions, une bonne moralité, si vous méritiez vraiment d'entrer au parti, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus, hein, qu'on vous accueille à bras ouverts sans même vous demander votre casier judiciaire. Mais à l'époque, il y avait vraiment une enquête de moralité. Et c'est une enquête de moralité très violente. Et on pouvait imaginer que si vous étiez un peu fils de bourgeois, vous n'aviez pas de bonne raison d'être là, et que peut-être vous étiez là pour pourrir la classe ouvrière avec vos idées débiles, etc. Enfin, on voit qu'à cette époque-là, c'est sévère. Et là, dans un premier temps, sa demande est refusée en 1929. Et il répond à un questionnaire, le questionnaire du parti. J'ai vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc il y a 74 points. C'est de la police totale. Alors certains vont vite. Et lui, il est très exactement dans une position inverse. C'est-à-dire qu'il détaille, il bat sa coulpe, il regrette, il se dénonce, il a des dettes dans le bureau de son divorce, parce qu'entre deux, il a divorcé. Il a été arrêté à une exposition coloniale, on ne sait pas pourquoi. Il a fait 24 heures de prison parce qu'il a fait un excès de vitesse, il raconte tout ça. Et puis, il dit qu'il a dénoncé un camarade, et puis il dénoncera aussi une autre fois. Et c'est aussi un des traits de caractère de Politzer. Colérique, coléreux, agressif, mais en même temps, quand il entre au parti, c'est un soldat total, complet. Et si le parti demande, alors on le fait, on obéit, on accepte et on va jusqu'au bout. Et de temps en temps, il dénonce des amis, parce qu'il trouve que des choses ont été faites et que peut-être le camarade machin a donné un communiqué, a donné des documents à quelqu'un qui n'est pas camarade ou qui n'est pas camarade comme il faudrait l'être. Et à ce moment-là, il le dénonce au parti, deviendra d'ailleurs permanent du parti, il faut bien payer ce genre d'entrée un jour dans la maison, où il raconte aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il a le souvenir des crises d'hystérie de son père, donc le médecin qui travaillait pour les patrons et qui en même temps était très violent, très brutal avec les ouvriers, et il signale également que sa mère a des problèmes mentaux, c'est-à-dire il balance tout, il donne tout. Il fait aussi une autocritique extrêmement sévère sur ses travaux de psychologie concrète. Et alors là, même chose, c'est l'espèce d'automutilation. Il dit qu'il regrette d'avoir fait ça. Il parle de son travail comme d'un bavardage pseudo-scientifique. Parce qu'effectivement, la psychologie concrète, ça n'est pas encore, enfin, on verra, je vous donnerai le détail, mais ça n'est pas encore une psychologie marxiste. Il n'y a d'ailleurs pas de psychologie marxiste. Puisqu'il n'y a pas de psyché, puisque d'une certaine manière, la superstructure idéologique, comme dit Marx, est produite par l'infrastructure économique, c'est-à-dire que le mode de production va générer une idéologie, une façon de penser, donc on n'a pas besoin de faire de psychologie d'une psyché, il suffit de faire une économie de la psyché et de faire de l'économie politique au sens premier du terme pour pouvoir savoir comment la psychologie fonctionne. Donc, effectivement, il est dans l'espèce de componction Politzer. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai fait une psychologie concrète. C'est du bavardage pseudo-scientifique. Il regrette d'avoir échafaudé une pensée pseudo-révolutionnaire. Il dit, mais cette pensée aurait pu séduire les masses. Il s'en veut d'avoir pu séduire les masses, puisque la seule chose qui compte, l'objectif authentique et véritable, c'est la révolution qui, elle, passe par le parti. Donc, on a... Et il y a ça aussi chez Nizan, hein, une espèce d'abdication de l'intelligence, de l'esprit critique, du génie, parce qu'on rentre au parti, et là, à ce moment-là, le premier cadre venu va les faire passer, ces deux-là, par des trous de souris. Ils vont renoncer, plus ou moins bien, et vous verrez quand et comment et de quelle manière, mais ils vont renoncer à leur esprit critique à ce moment-là. Il a donc, souvenez-vous, créé une revue qui s'appelle la Revue Marxiste. Le PC met son nez dans l'affaire, en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette revue ?» Elle s'appelle « Revue marxiste », mais le marxisme aujourd'hui, ça passe par le parti, et là, ça ne passait pas par le parti. Et Politzer dit « oui, bien sûr, mettez votre nez dans cette affaire-là, il faut que la revue marxiste devienne vraiment la revue du Parti communiste français ». Et à cette époque-là, le PC exclut Gutermann et Morange, qui sont coupables de déviationnisme ou d'hétérodoxie, et qui sont violemment pris à partie. On leur reproche d'avoir eu une existence autonome, indépendante du parti, et Guterman partira en exil aux États-Unis et gardera vraiment toute son existence une grande souffrance de ce qui aura eu lieu à ce moment-là, c'est-à-dire une espèce de trahison de l'amitié au nom des intérêts du parti. Le parti avait dit, voilà, c'est pas communiste, c'est pas dans la ligne, vous êtes autonome, vous êtes indépendant, c'est pas bien. Et Politzer dit, oui, oui, vous avez raison, sacrifions-les aussi. Donc, une psychologie particulière que la psychologie du militant à cette époque-là. La psychologie du mari n'est guère plus réjouissante. Je vous avais dit que son premier mariage était motivé par l'intérêt, que Camille avait un père propriétaire et que ça lui permettait d'être bien logé dans un beau quartier de Paris. Et Camille, à l'époque, a une tuberculose et elle se fait soigner dans un sanatorium à Hendaye. En 1929, Politzer prend le train pour la rejoindre. Et dans le train, il rencontre une jeune fille blonde aux yeux bleus dont il tombe amoureux. Elle s'appelle Marie-Mathilde Larcade, elle est dite Maille. Et Maille, ça va devenir la femme de Politzer pour le Parti communiste. Ça va devenir le couple, Georges et Maille. Pour la mythologie du parti, il fallait un homme, une femme, la fidélité, la monogamie, pas d'histoire avant, pas d'histoire après, et le grand couple résistant. Elle est catholique pratiquante, elle a fait des études de sténo et de commerce, et elle lit les pensées de Pascal dans l'édition de Brunswick. Et il se fait que Brunswick était le professeur de philosophie, l'un des professeurs de philosophie de Politzer. La jeune fille en question a un père chef cuisinier, qui a quelques économies, et qui lui a offert une clinique d'accouchement à Paris. Et pour séduire la jeune fille, Politzer lui parle de Freud, de la psychanalyse, donc je disais qu'il connaissait bien, que probablement il a rencontré Freud, et que, de toute façon, sûrement et certainement, il l'a lu et bien lu. Et il lui parle également de la Boétie, ce que la servitude volontaire, grand livre de résistance de cet ami de la Boétie. Il divorce, donc, Politzer, et se remarie le 5 mai 1931. Et comme sa première femme est toujours au sanatorium, donc il a la garde des enfants, mais il se fait que Georges et Maille militent beaucoup et qu'il faut sortir, il faut vendre le journal, il faut faire des adhésions, il faut faire du porte-à-porte, il faut militer, il faut faire des réunions de cellules, etc. Il ne s'occupe pas beaucoup des enfants et qui sont abandonnés, laissés à eux-mêmes, et les enfants sont donc enlevés à Politzer et placés. La clinique périclite, évidemment, ils font faillite. Et ils sont obligés de vendre la clinique à perte. Et c'est très exactement à ce moment-là que le Parti communiste confie les questions économiques à Georges Politzer. Vous voyez, aucune malice. Enfin, quand même. En 1930, le Parti communiste crée une université ouvrière. Et il s'agit à l'époque, et c'est un beau projet, toujours d'actualité, de former les prolétaires à la philosophie. Il y a effectivement ceux qui pensent que la philosophie se fait pour les philosophes et que les philosophes, eh bien, on doit les choisir dans un parterre d'individus qui sont issus d'un milieu particulier, qu'il faut d'une certaine manière faire partie d'une espèce de peuple élu pour pouvoir être philosophe. Le Parti communiste avait raison sur ce sujet-là et considérait que la philosophie, chacun en est capable s'il est initié. Et il s'agissait dans l'université ouvrière du Parti communiste à l'époque d'initier les prolétaires à la philosophie. Et il y avait à l'époque donc des cours de philosophie marxiste et c'était Politzer qui assurait ces cours-là. Et donc il existe aujourd'hui un ouvrage qui s'appelle « Principes élémentaires de philosophie » qui est théoriquement le livre du cours que Politzer donnait à cette époque-là. Alors c'est un petit peu compliqué parce que ce sont des notes de Maurice Le Goas, d'un Breton qui avait conservé toutes ces notes-là, et le PC a édité, après la Libération, les notes de Politzer, ou les notes de Le Goas, prises au cours de Politzer, et c'est Jean Canapa, qui était un stalinien de première classe, ancien élève de Jean-Paul Sartre, agrégé de philo, qui était l'homme des basses œuvres intellectuelles au Parti communiste, qui a remis tout ça dans l'ordre de l'orthodoxie. Donc c'est un texte de Politzer, mais à prendre tout de même avec des pincettes. Ceci dit, ça reste un beau livre, c'est-à-dire un vrai livre d'initiation, c'est-à-dire quand on démarre et qu'on ne sait rien, et qu'on est prolétaire ou ouvrier, c'est-à-dire qu'on a été très vite privé d'école ou privé de culture ou privé de savoir et qu'on nous a vite demandé d'aller travailler 10-15 heures par jour à cette époque-là, eh bien, prendre les choses à la base en disant on va démarrer la philosophie et on va vous conduire quelque part. Quelque part, c'est évidemment à la révélation du marxisme-léninisme et à l'idée que toute la philosophie, la bonne, la vraie, la juste, bonne philosophie, elle débouche sur Lénine et sur l'Union soviétique. Ça vaut ce que ça vaut, mais toujours est-il qu'on y trouve un certain nombre de choses intéressantes sur l'utilité de la philosophie. Intéressant de poser la question, à quoi ça sert ? Sans être dans une perspective utilitariste, on a le droit de demander quelle est l'utilité de la philosophie, parce que certains considèrent que l'utilité de la philosophie, c'est une espèce d'art pour l'art, que la philosophie, ça sert à faire des philosophes qui font des profs de philo qui vont refabriquer des philosophes, donc dans une logique incestueuse. Puis vous avez des gens qui disent non, ça sert à autre chose. Certains pensent que ça sert à conduire son existence correctement, ce que je pense. D'autres pensent que ça sert à faire la révolution, et pourquoi pas. Et Politzer était de ceux-là. Ils insistent également sur la question de la difficulté de la philosophie. On dit, mais pourquoi c'est difficile ? Pourquoi c'est une discipline qui peut résister a priori ? On oppose dès le départ l'esprit à la matière, c'est-à-dire l'idéalisme et le matérialisme, en expliquant comment se constituent ces deux pensées, ces deux philosophies, ces deux visions du monde. Donc, de fait, on est dans le manichéisme, on est dans les dichotomies, on est dans le dualisme. Mais je veux dire que depuis au moins Pythagore, le dualisme fait partie de notre vision des choses et on peut difficilement penser en dehors de ça. Et de fait, on peut accepter cette idée qu'il y aurait idéalisme, matérialisme, avec une tradition, l'idéalisme, qui déboucherait sur la justification et la légitimation de la bourgeoisie, du capital et du capitalisme, et puis une autre, le matérialisme, qui déboucherait sur une philosophie en faveur du peuple, du prolétariat et de la révolution. Donc on comprend effectivement qu'il s'agit d'éduquer, d'instruire, mais en même temps de formater également. On y voit apparaître une histoire du matérialisme antique, et c'est très intéressant, toute cette tradition qui a été oubliée, négligée, mise de côté, mais qui va générer par la suite une autre philosophie qui débouchera sur le matérialisme français du XVIIIe siècle, sur la Révolution française, qui elle-même débouchera sur Marx, qui lui-même débouchera sur Lénine, qui débouchera sur Staline, l'Union soviétique et le paradis du moment à cette époque-là. Il y a évidemment des considérations sur la métaphysique. Vous vous doutez bien que si on fait l'éloge du matérialisme de l'Antiquité comme la généalogie de tous les matérialismes qui débouchent sur l'avenir radieux, eh bien, ou sur le présent radieux, eh bien, la métaphysique, c'est au contraire très exactement l'inverse. C'est la philosophie de l'obscurantisme, c'est la philosophie de la réaction, de la bourgeoisie, du christianisme, des dominateurs, alors que l'autre, le matérialisme, est la philosophie plutôt des dominés. Politzer propose une généalogie de la dialectique, et on verra quel rôle elle joue, la dialectique, pour justifier le pire dans le XXe siècle. Puisque, pour aller vite, je vous disais tout à l'heure que le dualisme était une forme dont on avait du mal à se défaire, et il y a une forme qui permet de se défaire du dualisme, qui est la dialectique, et surtout la dialectique hegelienne, qui suppose que vous auriez un premier temps, un premier moment, vous auriez un moment de négation de ce premier temps, et que de ce moment de négation du premier temps surgirait quelque chose qui serait le troisième temps, temps de résolution de la négation, et le mouvement du réel, ce serait un mouvement dialectique en trois temps, avec un moment nécessaire de négativité. Tout ça, c'est dit théoriquement. Pratiquement, ça peut être dit autrement, et vous verrez tout le danger qu'il y a à extrapoler du concept de dialectique à la réalité de la dialectique. On vous dit, les camps de concentration en Union soviétique, par exemple, c'est un moment de la négativité. Il y a des purges, il y a des assassinats, il y a une police politique. C'est un moment nécessaire de la dialectique. Quand ce moment-là sera passé, on arrivera dans le moment de la résolution d'une humanité parfaite, mais le camp de concentration, le goulag, eh bien le goulag, il a sa nécessité dialectique. C'est un temps dans un mouvement, c'est un moment dans un mouvement, et c'est un temps qui abolira le goulag. Le goulag est fait pour abolir le goulag. C'est-à-dire le goulag est fait pour abolir la police. Le goulag est fait pour abolir la prison. C'est-à-dire ce qui est là pour nier ce qui doit être au profit de quelque chose qui sera merveilleux, puisque ce qui aura été nié n'existera plus. Donc c'est un enjeu, la dialectique, et le cours de Politzer permet de s'interroger sur ses usages, sa fonction, ses lois, comment ça marche. Et puis on vous explique un marxisme qui n'est peut-être pas aussi marxien que ça. C'est-à-dire que les marxiens, les gens qui sont des spécialistes de Marx sans être marxistes, pourrais vous dire que, par exemple, c'est une chose qui est assez singulière, le mot capitalisme n'existe pas dans Marx. C'est assez singulier. Le mot capitalisme n'existe pas chez Marx. Le mot capital existe, mais l'idée du capitalisme, ça ne s'y trouve pas. Donc c'est une idée intéressante, puisqu'on pense que Marx, c'est le critique du capitalisme. Non, c'est une chose qu'il faut mettre en perspective avec le marxisme, c'est-à-dire pas forcément la pensée de Marx. Et le marxisme suppose qu'il y a des forces motrices dans l'histoire. Jadis, on pensait qu'il y avait une providence, que c'était Dieu qui réalisait ce qui advenait. Et là, on nous dit que ce sont les masses qui font l'histoire. C'est le peuple qui fait l'histoire. Il y a des forces motrices à l'histoire, et c'est le prolétariat. Des cours sur la division du travail, sur la lutte des classes, sur le déterminisme économique, sur le fameux matérialisme dialectique. Là aussi, l'expression matérialisme dialectique n'est pas chez Marx. Donc le matérialisme dialectique est fabriqué par le dogme marxiste, parfois même contre ce que Marx aurait pu dire. On invite les prolétaires, les ouvriers, on réfléchit sur l'idéologie, etc., et on invite les ouvriers à lire Marx, Engels, que Politzer traduit à cette époque-là. Vous savez que c'est le roux et combalusier de la philosophie, Marx, Engels, Lénine, Plekhanov, qu'il faut lire également, qui sont tous publiés aux éditions sociales. Et c'était la maison d'édition du Parti communiste qui nous expliquait comment il fallait lire la Boétie, comment il fallait lire Helvétius, comment il fallait lire Dolbach, Lamétrie, etc. Et il faut les lire comme Lénine les a lus ou comme Lénine les aurait lus, évidemment. Donc il y a une torsion de cette pensée-là. Politzer a raison de dire que l'idéalisme est idéologiquement intéressé, mais il faut dire aussi que le matérialisme est lui aussi idéologiquement intéressé. Comme tout bon manuel, on y propose des devoirs aux prolétaires, et vous avez intérêt à bien répondre. Je prends ça à une question comme celle-ci. Peut-on être métaphysicien et révolutionnaire ? Et on voit bien ce qu'il faut répondre. Non, le métaphysicien ne peut pas être révolutionnaire, et le métaphysicien, c'est l'idéaliste, etc. Donc on voit bien la question de cours qui est faite, non pas tant pour qu'on réfléchisse, mais pour qu'on obéisse. Il s'agit de restituer un discours qui aura été appris plutôt que de réfléchir à partir d'une question qui est proposée. L'historiographie marxiste, elle est présentée comme une espèce de lignage qui, d'Héraclite, conduirait à Staline. Et Héraclite est présenté comme l'inventeur de la dialectique. C'est allé un peu vite. Il reste très peu de choses d'Héraclite, qu'on appelle Héraclite l'obscur, d'ailleurs, parce qu'il écrivait de manière un peu obscure, de fait. C'est très, très difficile à traduire, et c'est très lyrique, c'est très poétique, donc d'autant que ce sont des fragments, donc il ne nous reste pas d'œuvre véritablement, donc on peut faire vraiment dire à Héraclite ce qu'on veut, y compris qu'il a inventé la dialectique. Ça ne me paraît pas juste, mais enfin bon, il est l'inventeur de la dialectique. Platon, c'est le penseur idéaliste qui défend l'esclavagisme, c'est pas faux, c'est assez juste. Kant, c'est le prototype du bourgeois libéral. Et puis, Marx et Proudhon, ben, je vais vous donner les citations. Marx est l'un des plus grands génies du XIXe siècle, immortel fondateur du communisme scientifique, de la théorie et de la pratique de la lutte des classes, révolutionnaire moderne du prolétariat international. Vous avez intérêt à apprendre ça, c'est l'un des plus grands. Donc il y a un plus petit, le plus petit c'est Proudhon, évidemment, qui est plutôt mon chouchou. Et alors Proudhon, c'est un utopiste petit bourgeois dont pas un argument ne tint devant la critique de Marx et dont la réaction a pu souvent se réclamer. Alors, utopiste, c'est faux. Il n'y a pas eu plus pragmatique dans le socialisme français. La mutualisation, la fédération. Petit bourgeois, t'es fils d'un tonnelier, lui-même ouvrier, on fait mieux comme petit bourgeois, alors que Marx lui-même était un grand bourgeois, dont pas un argument ne tint devant la critique de Marx. Proudhon avait écrit un livre qui s'appelait « Philosophie de la misère ». L'idée qu'on puisse être philosophe et s'occuper de la misère, c'est plutôt rare. Et violent et brutal, Marx avait répondu avec « Misère de la philosophie ». Et avait violemment démonté, avec beaucoup de mauvaise foi, les arguments de Proudhon, dont la réaction a pu souvent se réclamer. Ça, c'est pas faux. C'est assez juste. Il y a chez Proudhon matière au pire. Éloge de la guerre, misogynie, phallocratie, antisémitisme. Donc ça, c'est pas très défendable. Et c'est une litote, c'est pas du tout défendable. Et ça a même rendu possible un courant du côté de Georges Valois, une espèce de mélange d'Action française et de syndicalisme révolutionnaire. Il y a eu un cercle Proudhon qui a été récupéré par la suite par Vichy, et Vichy s'est nourri d'un certain Proudhon. Donc, de fait, dans Proudhon, tout n'est pas bon, si on pouvait le dire comme ça. Cette université ouvrière, c'est aussi une association, et il faut avoir ça présent à l'esprit pour comprendre comment le Parti communiste a pu séduire à ce point, et plaire à ce point, et avoir une adhésion populaire, parce qu'il y a une bibliothèque, une salle de lecture, une chorale, des visites commentées de musées, un journal interne, et ça donne une famille à des gens qui n'en ont pas, une famille avec des gens qui peuvent se retrouver entre eux, des gens qui sont pareillement exploités, pareillement humiliés, pareillement pauvres, pareillement mis au banc de la société. Et donc, c'est important. C'est-à-dire, vous avez deux communismes. Vous avez un communisme de la base, et je n'aurai jamais rien contre ce communisme de la base, je n'aurai jamais rien contre les militants communistes, je n'aurai jamais rien contre les gens qui se sont trouvés trompés, qui ont été égarés, et puis un communisme du sommet, qui lui, alors là, mérite toutes les foudres possibles et imaginables, parce que ce communisme-là savait, il a été l'auteur du pacte germano-soviétique, il a été l'auteur d'un certain nombre de choses qui font qu'effectivement, le Parti communiste, dans ses instances dirigeantes, a beaucoup fait contre la classe ouvrière. Politzer est communiste, mais en même temps, il lit en dehors des balisages, ne lit pas que Marx, Engels et Plekhanov. Il lit Freud, il interroge ses amis sur leurs rêves, donc ça continue à l'intéresser, l'histoire de la psychologie concrète. Il lit l'imagination de Sartre, le nouvel esprit scientifique de Bachelard, et on pourrait montrer comment son travail est assez bachelardien sur les ruptures épistémologiques, sur la constitution d'une science, sur ce qui est pré-scientifique et qui va rendre possible une science un jour. Et puis en décembre 31, il a une relation amoureuse avec une prof de camp. Il est marié depuis 8 mois avec Maï. Il est dénoncé au parti par un camarade et on lui demande de rendre les lettres et de rompre. Donc il rompt avec cette dame de camp. Maï aussi, elle a des aventures en dehors du mariage. Et en 1938, elle rencontre Jacques de Courtemanche, dit de Court. Et elle envisage à cette époque-là de quitter Georges pour de Court, qui lui aussi sera fusillé au Mont-Valérien comme résistant, et je vous dirai quand et comment. Le PC, en dehors de cette université ouvrière, crée une école du parti à Arcueil, où on enseigne le marxisme-léninisme dans son développement historique, on enseigne le militantisme, et la chose est dite, il semblerait que Politzer y enseigne avec ironie et brutalité, c'est-à-dire qu'il est... Il est agressif avec les ouvriers qui se trouvent là et les communistes. Il écrit dans les cahiers du bolchevisme, c'est l'organe du parti, beaucoup. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, et Nizan aussi, vous verrez, c'est considérable la somme de travail que ces gens-là fournissaient. Et entre juillet 35 et juillet 39, par exemple, il publiera une trentaine d'articles, Politzer, qui sont tous consacrés à des questions économiques, le budget, la dévaluation, la défense du franc, etc. Maï est devenue assistante sociale, elle a des crises hépatiques, elle aussi, elle est touchée par la tuberculose, elle va en cure dans les Landes, elle milite à l'époque à l'Union des jeunes filles de France. On aura l'occasion de reparler de ça, parce que quand Simone de Beauvoir publie Le deuxième sexe, grand livre, le Parti communiste dit pique-pendre de ce livre, puisque le Parti communiste à l'époque est contre l'avortement, contre la contraception, et considère qu'une femme qui avorte est criminelle, qu'une femme qui utilise la contraception est une salope, etc. Enfin, d'où le fameux manifeste. On verra effectivement que la pruderie est du côté du parti à cette époque-là, et notamment du côté de l'Union des jeunes filles de France. Politzer pulvérise le livre de son copain, Friedman. Friedman a publié De la Sainte Russie à l'URSS. Et il est très violent, très brutal, le compte-rendu est insultant, agressif. Et c'est, semble-t-il, la première fois que le mot trotskiste apparaît comme une insulte. On parle même des hitléro-trotskistes, c'est assez singulier de la part des gens qui ont signé le pacte germano-soviétique ou qui ont souscrit au pacte germano-soviétique, mais c'est la première fois que le mot devient une insulte. Quelques mots sur le Parti communiste, parce que ce sont des choses qu'il faut dire, et moi j'ai découvert ça assez récemment, et je souhaiterais vous faire partager la lecture de quelques livres qui m'ont semblé majeurs sur la question du fameux pacte germano-soviétique. Le pacte germano-soviétique est signé le 23 août 1939, ça dure jusqu'au 22 juin 1941, date à laquelle Hitler le rompt en envahissant l'Union soviétique, et Politzer n'écrit rien sur ce sujet-là. Nizan lui quitte le parti, c'est un grand moment dans la vie de Nizan. Ils se connaissaient tous les deux, Nizan et Politzer, puisqu'ils se retrouvent un jour dans la belle maison des parents, des beaux-parents de Nizan, une maison d'architecte dans l'esprit de Le Corbusier, et ils balancent un jour toute la vaisselle de la belle-mère, ils cassent toute la vaisselle comme ça pour s'amuser, donc ils étaient plutôt copains tous les deux. Et il y a une anecdote qui nous renseigne, donc il n'écrit rien sur le pacte germano-soviétique, mais une anecdote qui nous renseigne, les Politzer, donc Georges et Maï, dînent à Bagnères de Bigorre avec Jacques Duclos et son épouse. Et il y a une dame dont j'ai découvert le nom, Hélène Perdrière, et grâce lui soit rendue, et qui était à l'époque pensionnaire de la Comédie française. Elle est donc dans ce restaurant, et elle vient devant Jacques Duclos, et elle fait devant lui le salut hitlérien. Donc bravo madame, c'est-à-dire effectivement le Parti communiste a souscrit au pacte germano-soviétique, et effectivement le Parti communiste fait un certain nombre de choses qui ne sont pas bien élégantes, et devant cette femme qui fait le salut nazi en présence de Jacques Duclos, Maï se lève et gifle Hélène Perdrière. Donc pour vous dire qu'effectivement, à cette époque-là, des gens pouvaient savoir que le pacte germano-soviétique était une honte, que c'était une trahison de l'idéal communiste, et il y avait des gens qui défendaient ce pacte, la preuve, Maille qui s'en vient gifler Madame Perdrière. Il faut dire que les Allemands entrent dans Paris le 14 juin 1940 et que le Parti communiste a mandaté deux personnes, il serait bon qu'on s'en souvienne, Denise Ginolin et Maurice Tréhard, qui en juin 1940 sollicitent Otto Abetz, qui est le représentant des nazis en France, hein, il le sollicite pour que l'humanité reparaisse et pour que le Parti communiste puisse exister à nouveau légalement. Donc dans une France occupée, le Parti communiste rencontre l'occupant pour lui demander la reparution de son journal militant et la possibilité pour son parti de recommencer à exister légalement. Des notes sont trouvées sur Ginolin et sur Tréhard. On a l'argumentaire du Parti communiste à cette époque-là qui va voir les nazis et qui dit « finalement, on a pas mal d'ennemis communs. Les ennemis que nous avons en commun, les capitalistes, les juifs, la démocratie, le parlementarisme et les bourgeois ». Ce qui veut dire qu'effectivement, à cette époque-là, le Parti communiste négocie en secret avec l'occupant nazi en France pour que l'UMA puisse continuer à paraître. Le Parti communiste se réjouit de la défaite. Le Parti communiste se réjouit de la défaite. Il faut dire les choses. Il pense que cette défaite précipite l'avènement de la révolution prolétarienne. Ça veut dire que l'Allemagne peut envahir la Pologne, puis la France, l'URSS ne bouge pas, le PC approuve. L'Angleterre décrète un blocus contre l'Allemagne nazie, l'Union soviétique laisse passer les produits qui ravitaillent l'Allemagne nazie, et le 29 septembre 1939, les nazis et les communistes demandent la fin de la guerre. Ils demandent que cette guerre soit arrêtée et que, statu quo, on permette à Staline d'embarquer ce qu'il a gagné, et Hitler également. Et le PC dit, si vous refusez, si la Chambre refuse, eh bien, à ce moment-là, la France et l'Angleterre seraient responsables de cette guerre qui deviendrait une guerre impérialiste. C'est-à-dire que le parti ne dit pas que les nazis sont responsables de la guerre, mais le parti dit à l'époque que les Français, s'ils refusent ce que Hitler et Staline veulent faire, seront responsables de la guerre. La France refuse, évidemment, et le PSF invite alors, à cette époque-là, à saboter le matériel militaire. Ça veut dire que dans des usines, des ouvriers communistes sabotent du matériel militaire et un certain nombre de personnes, de soldats français, ont perdu la vie aux commandes d'un tank, aux commandes du matériel militaire, aux commandes d'un avion, simplement parce que le parti demandait à ses militants de saboter le matériel qui permettait de lutter contre Hitler, qui à l'époque était le compagnon de route de Staline. Le père de Guy Mocquet défend cette ligne de collaboration avec l'occupant. Il est arrêté et emprisonné. Son fils prend le flambeau en disant qu'il mène le même combat que son propre père. Il distribue des tracts qui défendent cette ligne, ce qui veut dire que Guy Mocquet n'a pas distribué des tracts de résistants, mais que Guy Mocquet a distribué des tracts du Parti communiste qui invitait à collaborer avec l'occupant. Un tract distribué le 27 juillet 1940 par le Parti communiste français, dit, deux points, ouvrez les guillemets, c'est dans le tract, « Les soldats allemands sont vos frères. Pactisez. Ne vous trompez pas. Votre ennemi, c'est le grand capital, les trusts de France, d'Angleterre, d'Amérique. » Fin de citation. Donc ce sont des tracts qui n'invitent pas à la résistance contre l'occupant, contre le nazi. Ils accablent les capitalistes français, ils justifient le pacte germano-soviétique, ils attaquent l'Angleterre, les Anglais et le général de Gaulle, qui, comme chacun le sait, a appelé à la résistance le 18 juin 40, et l'Union soviétique est présentée comme le grand pays de la liberté et de la démocratie. Guy Mocquet est arrêté par la police de Vichy le 13 octobre 1940, non pas pour fait de résistance, mais parce qu'il est communiste et qu'il invite à pactiser avec l'occupant national-socialiste. Voilà le motif de l'arrestation de Guy Mocquet. Guy Mocquet a été arrêté pour avoir distribué des tracts qui défendent le pacte germano-soviétique. Le 22 juin 1941, Hitler envahit l'Union soviétique. Plus de pacte germano-soviétique, bien sûr. C'est à ce moment-là que le Parti communiste rentre dans la résistance. C'est à partir de ce moment-là qu'on aura des communistes résistants parce que le parti le demandera. L'occupant prélève à ce moment-là des otages dans les prisons, puisqu'il y a des Allemands abattus dans la rue. Guy Mocquet en fait partie. Il est fusillé le 22 octobre 1941. L'évidence, C'est un fusillé par les Allemands, quels que soient les motifs, grâce lui soit rendue, qu'au moins l'histoire puisse passer et qu'on fasse savoir que Guy Mocquet n'a pas été résistant. Et que s'il a été fusillé, c'est comme otage, et c'est tout autant honorable, mais qu'on dise les choses telles qu'elles ont été véritablement. Il y aurait d'autres choses à dire. Le Parti communiste fabrique un faux, un appel du 10 juillet 1940, en prétendant que le 10 juillet 1940, le Parti communiste français aurait invité à la résistance. C'est faux. C'est un texte qui a été fabriqué après la libération. On a fabriqué un faux numéro de l'Humanité pour antidater un texte et montrer que le Parti communiste avait résisté. Le Parti communiste français n'a pas résisté le temps du pacte germano-soviétique. Quelques-uns, et c'est l'honneur des communistes et du communisme, quelques-uns ont résisté contre le Parti, malgré le Parti. Et le Parti, à l'époque, avait, et ça aussi je l'ai découvert récemment, avait créé ce qui s'appelle le détachement Valmy. Le détachement Valmy qui, entre 1941 et 1944, sur ordre de Jacques Duclos, allait abattre physiquement les militants qui étaient hétérodoxes. C'est-à-dire que le Parti communiste avait sa propre milice et faisait abattre les militants communistes qui étaient hétérodoxes. Ça veut dire effectivement que tous ceux qui n'adhéraient pas au pacte germano-soviétique à l'époque, eh bien, il pouvait leur arriver très exactement la même chose. Ça veut dire que quand Politzer, et j'y reviens et je conclue, quand Politzer résiste alors qu'il est au Parti communiste, mais individuellement, pas en tant que membre, qu'il écrit des textes magnifiques contre Rosenberg, contre le national-socialisme, qu'ensuite il crée une revue, qu'il milite, qu'il défend une position véritablement résistante et qu'il se fait fusiller en 1942, de fait, il sera l'honneur de la philosophie, de la pensée, ce que dira d'ailleurs le général de Gaulle. Il sera l'honneur aussi des communistes de base qui gardent leur esprit critique. Voilà pourquoi il m'a semblé qu'on pouvait consacrer quelques séances à réhabiliter le personnage et montrer que, de fait, il y a eu de grandes figures communistes dans la résistance, mais que ça fut ce comportement-là, un comportement qui s'est manifesté contre les instances du parti. Voilà pour cette séance. Alors ce cours n'aurait pas eu lieu sans, je vous le disais tout à l'heure, sans la biographie de Michel Politzer, Les trois morts de Georges Politzer, c'est le titre provisoire. Il a fait cette belle biographie et théoriquement je me débrouille pour que ça puisse être prochainement publié, que vous puissiez lire ça un jour, parce que ça le mérite vraiment. Sur Politzer lui-même, donc cette biographie, ce texte dont je vous parlais, Principes élémentaires de philosophie aux éditions sociales, un très beau numéro, c'était une revue qui s'appelait La liberté de l'esprit, avec un beau volume qui s'appelle Visage de la résistance, c'était à la Manufacture, ça n'existe plus non plus cette maison d'édition, à l'automne 1987. Et puis les trois ouvrages qui m'ont permis de conclure malheureusement sur le Parti communiste, parce qu'effectivement, moi, j'ai été sidéré de découvrir ce que j'ai découvert, dans trois très beaux livres de Jean-Marc Berlière et de Franck Liègre, L'affaire Guy Mocquet, enquête sur une mystification officielle, c'est aux éditions Larousse, Jean-Pierre Besse et Claude Pentier, juin 40, La négociation secrète, avec un bandeau Les communistes français et les autorités allemandes, aux éditions de L'Atelier, et puis le fameux détachement Valmy, Jean-Marc Berlière, Franck Liègre, Liquider les traîtres, La face cachée du PCF 1941-1943. Robert Laffont.
C'était Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. Prise de son, Benoît Cousin, France Bleu Basse-Normandie. Collaboration technique, Centre dramatique national de Normandie. Réalisation, Véronique Villa. Demain, les guerres d'un philosophe.